Nous savons combien les premières années d'un enfant sont précieuses et combien un enfant doit être aimé dans ces années-là, protégé. Et donc, c'est pour ça que les parents ont besoin aussi du Seigneur pour déborder de cet amour. Alors, croyez-moi ou non, mais Naomi a un cantique préféré. Déjà. Et c'est Amazing Grace. Alors, on peut se lever pour le chanter ensemble. Oui, parce qu'elle va être trilingue, elle. Hein? Ah oui. Je laisse un peu de ventilation, mais je coupe la climatisation. Ce matin, j'aimerais vous parler du jardin de notre âme. Dans le Cantique des Cantiques, je vais lire un passage dans le chapitre 4, versets 12 à 16. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 12 à 16. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets sont un paradis de grenadiers aux fruits excellents. Le henné avec le nard et le safran, le roseau odorant et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent de l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les plus excellents aromates, tu es une source de jardin, une source d'eau vive, de ruisseau du Liban. Lève-toi, Aquilon, et viens au temps. Souffle sur mon jardin et que ses parfums se répandent. Que mon bien-aimé vienne à son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Le Cantique des Cantiques est le livre le plus poétique de la Bible. Il décrit l'amour d'un homme pour une femme. Un amour très poétique et très beau, très fort, très entier. Mais si c'est dans la Bible, c'est parce que cet amour n'est pas seulement humain, mais il y a là une allégorie, une image de l'amour de Dieu pour ses enfants, pour ceux qui lui appartiennent. Dans le contexte, c'est pour Israël, mais c'est aussi pour tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Le printemps essaye de poindre, de commencer. Les fleurs apparaissent. Et c'est donc un beau moment pour s'occuper de son jardin. Dans quel état est votre jardin? Vous me direz, excusez-moi, mais je vis en région parisienne, je n'ai pas les moyens d'avoir un jardin. J'ai 3 pots de fleurs sur mon balcon et c'est déjà beaucoup. Pourquoi voulez-vous me parler d'un jardin? Mais je ne vous parle pas d'un véritable jardin, je vous parle de votre âme. Le jardin de votre âme. Tout comme Salomon ne parlait pas d'un vrai jardin en parlant de sa fiancée. Il décrivait sa fiancée comme un jardin fermé, un enclos, un paradis rempli d'arbres et d'essences merveilleuses, eh bien notre âme devrait être comme cela. Mais dans quel état est votre âme? Pour beaucoup, le jardin de leur âme est complètement à l'abandon. Les ronces y règnent. La terre est retournée par les sangliers et les taupes. On ne peut même pas s'y promener tellement c'est horrible. Le Seigneur Jésus a prononcé des paroles au sujet de notre âme qui sont très fortes. Je lis en Matthieu 16, 26. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et ailleurs, Jésus a dit, toujours dans Matthieu, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Il parlait de Dieu. Jésus pose une question, hein. À quoi ça sert de gagner tout le monde si on perd son âme? Et ce que je remarque de plus en plus dans notre monde et en France, puisque je vis en France, c'est qu'on passe tragiquement à côté de la vie éternelle et de l'âme continuellement. On essaie de gagner le monde. On essaie d'avoir plein de choses matérielles. Mais on perd son âme. Au seuil de la mort, qu'est-ce qu'on emporte avec soi? Est-ce que vous pouvez me répondre? Si, il y a une chose. Son âme. On laisse son corps, qui va retourner à la poussière, comme dit la Bible. On laisse ses biens matériels. On laisse même sa famille. On laisse sa voiture qu'on avait chouchoutée, pomponnée. Son chien, son chat, qu'on aimait tendrement. On laisse tout et on part tout nu avec son âme. Et ce qui est tragique, c'est qu'on s'occupe de tout pendant notre vie sur terre, sauf de son âme. Et c'est trop tard quand on y pense, quand la mort arrive. Jésus a raconté la parabole de ce riche insensé, un riche agriculteur qui a eu une récolte phénoménale, mais vraiment quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il a rempli ses greniers comme jamais. Ça débordait. Et quand il a vu ses greniers pleins, il a dit « Mon âme, réjouis-toi hein, et profite. Maintenant que tu as tous ces biens, tu peux profiter de la vie. » Ça me fait penser aux personnes qui arrivent à la retraite avec un salaire confortable, hein, qui se disent « Maintenant, j'arrive à la retraite, je vais pouvoir voyager, je vais aller sur les îles, je vais aller voir ceci, en Inde, en Thaïlande, etc. » Et puis, Jésus dit, Dieu parla à cet homme et lui dit « Insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Et tout ce que tu as amassé, pour qui sera-ce ?» Et ces retraités hein, qui meurent parfois d'une crise cardiaque, hein, l'année de leur retraite. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Est-ce que vous êtes occupé de votre âme éternelle? Ou est-ce que vous avez passé tout votre temps, toute votre occupation, votre concentration à vous occuper de votre corps et de vos biens matériels? C'est terrible comme on s'occupe des choses éphémères et on délaisse les choses éternelles. On dit « Oh, on verra bien au moment de la mort ». Mais franchement, est-ce qu'on a le temps de voir la mort venir? Et quand elle vient, on n'est pas forcément prêt à s'occuper de son âme. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Notre âme est chargée de péchés, d'offenses contre l'Éternel, contre le Créateur, d'offenses contre les hommes. Notre âme est souillée par les transgressions de notre conscience. On a transgressé les limites de notre conscience tellement de fois qu'il y a une sorte de culpabilité latente, permanente. Notre conscience a même arrêté de sonner. Hein, il y avait cette personne qui avait acheté une BMW, et il a regretté parce que dès qu'il y avait un petit pépin, il y avait une lumière et un petit bip, et ça ne s'arrête pas tant que vous ne l'avez pas amené au garage BMW qui vous l'éteint, et qui vous fait payer cher votre extinction. Et il avait ce bip là, il dit « Mais comment je peux arrêter ce bip, cette lumière ?» Il était prêt à tout, hein, même à trafiquer dans le moteur pour qu'on arrête le bip. Mais pourquoi il y avait un bip? Parce qu'il y avait un problème. Pourquoi la conscience sonne? Pourquoi la conscience résonne en nous? Parce qu'il y a un problème, il y a un problème de péché, de souillure, de culpabilité. Mais on essaye de l'éteindre. Je suis frappé ces jours-ci par le nombre de gens qui se baladent dans la rue avec des gros casques pour écouter la musique. Avant, on avait des petits écouteurs discrets, mais alors maintenant, c'est vraiment les casques de cosmonautes qui sont à la mode. Mais on les voit plus. Du coup, on se rend compte qu'énormément de gens se ferment, hein, se remplissent la tête de choses pour ne pas penser, pour ne pas s'occuper de leur âme. Le salut de notre âme est la chose la plus importante qui soit sur la terre. Et on la néglige complètement. Si on faisait un sondage, en interrogeant les gens, est-ce que vous vous occupez de votre âme éternelle? Est-ce que votre âme est sauvée? Combien diraient, ah, mais oui, je m'en occupe tous les jours, je fais oui. Combien répondraient oui? Est-ce que vous répondriez oui? Je dois vous dire que pendant ma jeunesse, je ne m'en suis pas du tout préoccupé. Tout ce qui m'intéressait, c'était m'amuser. Comme j'étais à Paris, que mes parents pouvaient me donner de l'argent de poche, je profitais de la vie, comme on dit. Mais j'étais vide, mon âme était vide, était asséchée, elle était stérile, elle se rétrécissait d'année en année, par manque d'amour, par orgueil, par égoïsme. Par contre, je m'amusais comme un fou. Est-ce que c'est ça la vraie vie? La vie que Christ est venu nous apporter, c'est pas ça, hein? C'est une vie qui se passe à l'intérieur, c'est dans l'âme. Il vient sauver notre âme du mal. Nous sommes prisonniers, esclaves du mal. Et ça, il nous faut le reconnaître parce que la parole de Dieu le dit, le déclare. Ce n'est pas simplement qu'on commet des péchés de temps en temps, c'est que nous sommes fondamentalement pécheurs devant Dieu. Et c'est notre nature. Naturellement, on est porté au mal. Et il faut beaucoup d'éducation, beaucoup de restrictions pour se retenir et ne pas commettre plein de choses horribles. Mais lorsqu'il n'y a plus ces restrictions, on voit ce qui se passe dans les faits divers. Hein. Ça sort de tous les côtés. Par contre, pour faire du bien, combien il faut de temps, d'éducation, d'explication pour que quelqu'un fasse un peu de bien? Non, il y a quelque chose de détraqué chez l'homme. Hein. Et la Bible dit que c'est une malédiction, c'est le péché en nous qui fait ça. Et Christ est venu nous sortir de là, nous délivrer. Lorsqu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans, il a payé notre dette. Il enlève ses chaînes. Il a payé ce que nous devions au Créateur. Et maintenant, nous sommes libres de connaître Dieu, d'aimer Dieu. Nous sommes pardonnés si nous croyons en Jésus-Christ. Christ veut recréer notre jardin. Il arrive, il regarde notre jardin qui est un champ de mine. C'est-à-dire, il y a des trous, il y a des ronces, il y a des détritus. C'est catastrophique. Et le Seigneur, il arrive et à son action surnaturelle, hein, par son Saint-Esprit, il recrée notre jardin, il en fait quelque chose, un petit paradis, comme le paradis de la fiancée du Cantique des Cantiques. Quand le Seigneur Jésus vient dans une âme, il la sauve, il la restaure, il la recrée. Ça ne veut pas dire qu'on est différent dans sa personnalité, hein. On est une âme, nous sommes nous-mêmes, personne ne peut nous changer. Mais par contre, il purifie, il enlève tout ce qui est détraqué. Et il remplace par son amour, sa paix, sa sainteté, sa justice. Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Est-ce que votre âme est sauvée, votre âme éternelle? Nous sommes une âme, nous habitons un corps. Alors, de quoi il faut s'occuper en priorité? De l'âme ou du corps? Ah, c'est vrai qu'on est très encouragé à s'occuper du corps. N'est-ce pas? Tout le temps maintenant, ça devient une obsession. On passe son temps chez le docteur qui soigne nos bobos du corps. On passe son temps à faire du sport pour revitaliser notre corps. On passe son temps à veiller sur notre nourriture pour que notre corps soit en bonne santé. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Mais notre âme, est-ce qu'on s'en occupe autant, même plus? On devrait s'en occuper plus. Hein. On parle des maladies psychosomatiques. Hein. C'est des maladies qui proviennent de l'âme et qui ont un effet sur le corps. Mais il n'y a pas beaucoup de maladies somato-psychiques, hein, où c'est le corps qui influe sur l'âme. C'est l'âme, nous sommes l'âme. Et si notre âme est en mauvais état, si elle est dans le péché, dans la culpabilité, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la dépression, c'est tout le reste qui souffre. Et la Bible et Jésus nous dit, à quoi ça sert de gagner tout le monde? À quoi ça sert de payer 10 000 euros de chirurgie esthétique si tu perds ton âme? Si ton âme est perdue pour toujours? Alors c'est vrai qu'on est très stressé, particulièrement à Paris. On a une vie où on court tout le temps, on n'arrête pas. Et on dit, mais j'ai pas le temps de m'occuper de mon âme, en fait. Mon corps, je peux arriver, je prends des écouteurs, je fais un jogging, bon ben voilà, je peux me défouler. Mais l'âme, ça prend du temps. Comment on s'occupe de son âme d'ailleurs? On ne sait pas. Alors on essaye de faire un peu de yoga, mais le yoga, encore une fois, ça ne va pas changer votre âme. Hein. Quand vous avez fini, vous êtes le même. Ça ne va pas purifier vos péchés. On écoute de la musique, on essaie de faire des choses, mais on va en vacances, on dit si je vais au soleil, si je vais au bord de la mer, mon âme ira mieux. Non, non, votre âme ne va pas mieux. Je viens d'une petite île qui s'appelle la Corse, qui est un petit bijou de la Méditerranée. Merci de m'approuver. Où la population est merveilleusement pacifique et remplie de sagesse. Je dis ça pour ne pas avoir de problème après. Mais maintenant, sérieusement, combien de gens vont en vacances en Corse? Qui a été en Corse en vacances déjà ici? Voilà. Hein. Voyez? Alors, c'est pas beau la Corse? Eh bien, maintenant, les Corses eux-mêmes, regardez dans quel état ils sont. Il y a un taux de dépression nerveuse en Corse, de problèmes psychiatriques, de violence, bien sûr, vous l'avez entendu. Inégalés. Ils vivent dans un paradis et ils sont malheureux. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'ils ont négligé leur âme. Et vous pouvez aller sur les plus belles îles du monde. Hein. Bien sûr, ce sera toujours mieux que certains coins de Paris. Mais votre âme, elle est toujours la même. Et il n'y a que Dieu qui peut donner la vraie paix, où que vous soyez, la vraie joie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Paris. Mais vous savez qu'on peut être heureux à Paris si votre âme est heureuse. Vous serez heureux à Paris. Vous serez heureux n'importe où. N'importe où. Même en prison. Dans la Bible, hein, il y a des apôtres qui ont été mis en prison parce qu'ils avaient parlé de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en prison d'après vous? Est-ce qu'ils pleuraient, ils écrivaient des lettres à leur maman? La Bible dit qu'ils chantaient des cantiques. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est en prison chante des cantiques? C'est qu'il a son âme sauvée. C'est qu'il a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, qui est en Christ. On se laisse emporter par les activités de la vie. On essaie de combler un vide parce que notre âme dit « Je suis vide, occupe-toi de moi ». Alors on dit « Oui, j'ai un vide, qu'est-ce que je vais faire ?» Je vais aller au théâtre, je vais aller au cinéma, je vais aller à un concert, je vais aller en vacances. Mais tout ça, ça ne remplit pas le vide. Parce que ce vide, il est en forme de Dieu. Hein. Il faut accepter que Dieu vienne remplir ce vide. Mais là, on a du mal. Hein. De laisser le jardin au jardinier en chef. C'est lui le jardinier en chef. C'est mieux que nous comment s'occuper de notre jardin. Alors, il faut faire comme la fiancée. Vous avez remarqué cette expression? Il dit, tu es un jardin fermé. « Oh, ma sœur, ma fiancée, une source fermée. » Pourquoi il dit cela? C'est parce que la fiancée, elle a gardé son jardin. Elle a mis une clôture, une porte, pour que n'importe qui et n'importe quoi ne rentre pas dans le jardin. La parole de Dieu dit dans le livre des Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il ne dit pas « Garde ton corps ». Il dit « Garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Est-ce que vous gardez votre cœur? Est-ce que votre âme, votre pensée est une poubelle? Une décharge publique? Je continue sur la Corse, je suis désolé. Mais en Corse, il y a des paysages merveilleux et puis vous avez des décharges en plein maquis comme ça. Au milieu de ce maquis sauvage, vous avez des tonnes de détritus qui polluent et qui sentent mauvais. Ça gâche tout, c'est un gâchis. Et il y a des gens, leur âme est comme ça, ils laissent faire n'importe quoi, ils laissent rentrer tout ce qui passe, ils ruminent même cette corruption, cette perversion. Hein. Leur pensée, même personne n'oserait aller dans leur pensée, même eux-mêmes je pense qu'ils ont peur de leur propre pensée. Hein. Alors ils se mettent de la musique pour penser à autre chose. Est-ce que ça vous plairait que vos pensées soient affichées avec un petit panneau, là, au-dessus de votre tête? Qu'on puisse lire dans votre cerveau. C'est ce que les scientifiques essaient de faire de plus en plus. C'est un peu effrayant. Grâce à des électrodes et leur étude du cerveau, ils arrivent à presque lire ce qu'on est en train de penser ou de ressentir. On se sent violé, hein, de l'intérieur. Mais est-ce que c'est un dépôt d'ordures, votre âme ou est-ce que c'est un jardin fermé, délicat, où vous avez planté les plus belles essences? Les bêtes sauvages piétinent, les oiseaux dévorent les graines, le vent, la grêle détruisent tout. Au fur et à mesure que ça pousse, les gens viennent déposer leur détritus dans vos âmes, dans votre cœur. Vous-même, vous encouragez, vous mettez toutes vos poubelles d'amertume, vos poubelles de haine, de vengeance, de perversion, de débauche. Et tout ça, ça fait un bouillon de culture là-dedans. Le Seigneur nous appelle à avoir une âme pure. Et Jésus peut rendre notre âme pure. Il peut nous rendre blancs comme la neige, comme dit la Bible. Dans le livre aux Galates, dans le Nouveau Testament, il y a la description de deux jardins différents. Au chapitre 5, un jardin sans Dieu et un jardin avec l'Esprit de Dieu. En Galates 5, verset 19, c'est le jardin sans Dieu. Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous le dis d'avance, dit la parole de Dieu, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si votre âme est dans cet état, vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Maintenant, il y a le jardin où pousse l'Esprit de Dieu, hein, où l'Esprit de Dieu est le jardinier, c'est là qu'il garde notre âme. C'est le verset 22, c'est la suite. Mais le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit que procure l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ dans une âme. Les fruits que nous proposons, hein, créons nous-mêmes. C'est la débauche, c'est la violence, les divisions, les querelles, les calomnies, la jalousie. Et à un moment, il faut choisir. Est-ce que je veux vraiment avoir un beau jardin? Et là, on quitte le côté loisir. Hein. On n'est pas dans le loisir. On est dans une question éternelle. Est-ce que je veux laisser mon âme périr éternellement? Être détruite pour l'éternité? Ou est-ce que je veux que mon âme soit sauvée? Que mon jardin soit recréé par Dieu? Qu'il y pousse les plus beaux arbres, les plus belles essences, et que lorsque le Saint-Esprit soufflera dessus, mon jardin exhale les meilleures senteurs d'amour, de joie, de bienveillance, de bonté. Il y a des gens qui font du bien, hein, mais être rempli de toutes ces choses, tout le temps. Pour ça, il faut être né de nouveau. Il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. Je pense aussi à ceux qui sont déjà au Seigneur, qui ont déjà leur âme sauvée et qui n'entretiennent pas non plus leur âme. On peut se laisser abuser par le cours du temps, la vie parisienne, et au lieu de s'occuper des choses éternelles et du Seigneur, on s'occupe encore une fois, du reste. Ça peut être les jeux vidéo, la télévision, toutes sortes de choses qui occupent notre pensée inutilement. On passe des heures dedans et au final, il n'y a rien qui en ressort. Il n'y a rien de fructueux. Il n'y a aucun arbre qui sort de toutes ces choses. Le Seigneur nous appelle à cultiver notre jardin spirituel, à passer du temps dans la parole de Dieu, à méditer l'Écriture, à passer du temps à faire du bien aux frères et sœurs, à notre prochain, à penser aux autres avant de penser à soi, à s'occuper de sa famille. Le Seigneur veut qu'on s'occupe des choses éternelles, parce que lorsqu'on va mourir, ce qui va rester, ce sont les choses éternelles. Tout ce qu'on aura amassé sur la terre, ça va rester là et ça va disparaître. Le Seigneur nous encourage à pratiquer en tant que chrétiens le remerciement. Que notre jardin soit plein de belles choses. Alors plantons d'abord du remerciement. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Du remerciement aux autres. Merci cher ami, merci monsieur, merci madame. Merci chérie à son conjoint. Depuis combien de temps vous n'avez pas dit merci à votre conjoint ? De cultiver aussi et de planter le contentement. Le contentement. De ne pas être là en train de se plaindre. De dire, oh, si on avait ci, si j'avais ça, il me manque ci, il me manque ça. Mais de cultiver la plante du contentement, vous dites, merci Seigneur, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je veux profiter, jouir de ce que j'ai. Et même partager ce que j'ai avec d'autres. Cultiver aussi l'encouragement, la plante de l'encouragement. Nous, on est des super champions en France du découragement, du bashing, diraient les Anglais. C'est-à-dire, t'es nul, c'est mauvais, ça sert à rien. Voilà. C'est pour ça que c'est dur aussi d'être un homme politique en France, parce que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous êtes mauvais. De toute façon, au départ. C'est dur d'être un entrepreneur en France, parce que quand vous commencez votre entreprise, on vous jette de l'eau froide, en disant, non, tu sais, ça va être dur, tu ne vas pas y arriver. Et ça se retrouve même dans les églises. Cet esprit négatif de découragement perpétuel, eh bien, cultivons la plante de l'encouragement, de s'encourager, dire, vas-y, de se supporter. Même les supporters des équipes sifflent leur propre équipe. C'est tout dire. Cultiver la louange, de chanter les louanges du Seigneur, d'écouter de la musique qui vous édifie, qui justement nourrit votre âme. Notre âme a besoin de nourriture spirituelle. Si on l'affame, eh bien, elle se rétrécit et on devient quelqu'un de renfermé, de centré sur lui-même. On s'occupe plus de ses problèmes d'angoisse que des problèmes des autres. Nous prenons beaucoup d'antidépresseurs en France. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on est trop centré sur soi, trop individualiste. Et c'est parce qu'on a négligé notre âme. Alors pour qu'elle se calme, on lui donne des médicaments. Pour qu'elle arrête de crier, de s'angoisser, de paniquer. Mais si on s'était occupé de son âme, et il est encore temps. Pour ça, et c'est le pasteur qui parle bien sûr, c'est le chrétien, il faut venir à la parole de Dieu. Elle restaure l'âme. Ce livre n'est pas un livre comme un autre, c'est le livre de vie. Et elle parle du Sauveur, Jésus-Christ, qui est vivant, qui peut sauver, et qui veut sauver votre âme. J'en suis témoin parce que j'étais athée. Avant de devenir chrétien, j'étais anti-clérical, anti-Bible, anti-Jésus. Et donc je sais ce que c'est de vivre sans Dieu, sans espérance. On se croit meilleur, on se croit plus intelligent que les chrétiens, que les croyants, mais en réalité, on est orgueilleux, on est dans la vanité. Parce que quand on est dans la foi au Seigneur, on a trouvé la vie, on a trouvé la réponse, on a trouvé le salut. On va terminer juste en s'inclinant dans la prière, après quoi on chantera un dernier cantique. Prenez le temps maintenant de prier. De penser à votre Créateur qui vous aime, qui vous cherche, qui veut sauver votre âme. Vous pouvez lui remettre toutes vos mauvaises pensées, tous vos péchés. Car il va les prendre et il va vous purifier définitivement par son sang précieux qui a coulé à la croix. Au pied de la croix se trouve le salut, le pardon. La justice, la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'en peut plus d'avoir une âme complètement fichue, complètement en friche, détruite? Et ce matin, vous voulez vous tourner vers le Seigneur. Ce n'est pas moi qui peux quelque chose pour vous. Ce n'est pas une église. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas ce matin, qui a besoin de la prière pour aller vers Dieu et recevoir son pardon? Voudriez-vous juste le manifester? Vous levez la main et vous la baissez aussitôt. Et ce geste, c'est pour dire oui, vous pouvez la baisser, pour dire oui, priez pour moi, car mon âme a besoin de salut. Notre Père, nous venons à toi tel que nous sommes, avec nos défauts, nos faiblesses, nos faillites, nos chutes, avec notre jardin en friche. Et nous croyons à ton amour pour nous, et nous croyons à ton pardon en Jésus-Christ. Seigneur, tu as donné ta vie, tu es mort pour que nous puissions être vivants. Tu as porté le péché de l'humanité sur toi, sur cette croix, pour que nous, nous soyons purifiés, pardonnés. Seigneur, nous voulons déposer à tes pieds toutes nos fautes, toutes nos souillures, toutes nos transgressions, toute notre culpabilité, toutes nos angoisses aussi, toutes nos mauvaises pensées, tout ce qui nous tire vers le bas, Seigneur, nous le remettons à tes pieds. Et nous te demandons de sauver notre âme par la puissance de Dieu. Cette puissance qui t'a ressuscité des morts, elle peut aussi nous ressusciter spirituellement. Et merci Seigneur de le faire. Merci de ton amour, de ta patience, de ce que tu as, au lieu de nous condamner, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Merci pour ce merveilleux cadeau. Amen.